I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente là tout de suite à vous sous forme d'extra ball, notre petite sortie de piste régulière aussi brève que délicate et enjouée, l'occasion surtout pour nous de prendre un moment pour évoquer une sortie, en l'occurrence on va causer de l'ombre d'Emily de Paul Feig avec mon camarade Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Cénociné extra ball spécial l'ombre d'Emily et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
L'ombre d'Emily, ça nous raconte l'enquête que mène Stéphanie alias Anna Kendrick pour retrouver la trace de sa meilleure amie, Emily, donc jouée par Blake Lively, qui a mystérieusement disparu et caché de nombreux secrets. C'est signé par Paul Feig, qu'on présente plus vraiment, puisqu'il est l'auteur entre autres de Bridesmaid, de Spy, de The Heat ou encore du remake d'SOS Phantom, qui a beaucoup fait causer il y a 2 ans. Que vaut cette ombre d'Emily, Stéphane?
Alors déjà, c'est le meilleur film de Paul Feig depuis Bridesmaids, pour moi. C'est aussi le plus surprenant, et c'est aussi celui dans lequel il est plus à l'aise finalement. Parce que quand tu regardes par exemple le concept de Bridesmaids, l'idée de base, qui peut paraître osée à la base, on va dire dans le contexte éventuellement hollywoodien, moi, c'est pas tant que c'est osé, mais que c'est, je trouve ça finalement plus naturel, c'est qu'on va montrer des femmes qui font fondamentalement, font caca, je sais pas comment expliquer, mais qui se comporteraient, entre guillemets, comme des hommes, en fait, comme certaines comédies un peu trash qu'on pouvait avoir à l'époque, les films avec Seth Rogen, ce genre de trucs. On va faire la même chose avec les femmes. Conceptuellement parlant, tu pourrais être barré en courant en te disant c'est quoi cette logique. Mais sauf qu'en fait, la force de Paul Feig, c'est justement de traiter ça de la manière la plus naturelle possible, et ce qui fait que finalement, ça marche en fait, si tu veux. Et surtout, c'était, à défaut de dire novateur, en tout cas, c'était relativement inédit à l'époque parce qu'il n'y avait pas ce genre de comédie romantique. Le voir s'attaquer, par exemple, à un film policier de la même sorte avec The Heat, une comédie d'espionnage. Voir une comédie fantastique.
J'ai beaucoup ri sur Spy et The Heat, mais pas sur SOS.
Moi, je trouve vraiment que c'est des films ratés. Et le problème, en fait, c'est que c'est à la base des films ratés, je pense aussi parce que, Paul Feig, objectivement, c'est pas le cinéaste, le plus rythmé en termes de comédie. C'est vraiment quelqu'un qui joue sur les situations et sur l'aspect sarcastique, social, en fait, qu'il peut faire ressortir. Et du coup, en fait, c'est des films qui demandent un certain rythme, et je trouve que déjà ils les ont pas. Et surtout, l'autre problème, c'est qu'en fait, c'est des films qui ont déjà été faits quelque part. En fait, c'est-à-dire une comédie policière, ça existe. Une comédie fantastique, ça existe. Une comédie avec des espions, ça existe. Même si là, c'est avec des femmes, en fait. Donc le truc, c'est que pour moi, tout ça, c'est voilà. Et puis SOS Phantom, c'était quand même vraiment raté. Tu sentais qu'il y avait beaucoup d'interférences du studio aussi, ce genre de choses.
Film à charcuter, évidemment.
Voilà. Là, en fait, il revient à un tout petit film qui est. Alors là, c'est ça qui est très étonnant, en fait, qui est littéralement vendu au premier degré. C'est-à-dire que c'est un film, c'est un thriller. Si tu regardes la bande, on se dit ok, c'est Gone Girl en gros quoi. C'est le personnage de Blake Lively, c'est plus ou moins le même personnage que comment elle s'appelait cette actrice dans Gone Girl,
Rosamund Pike,
merci. Et tu te dis c'est quelqu'un qui a quelque chose à cacher, qui a un énorme rapport social, qui a besoin de se montrer en avant. Et du coup, quand le film commence, tu l'abordes comme ça parce que on va dire que t'as été préparé. Et puis je crois que le matériau d'origine, le livre en fait, est très premier degré à la base. Sauf qu'en fait, au premier à la première scène, un tant soit peu ridicule, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, tu penses que tu es en train de regarder un film qui va briller et qui va vraiment être planté, quoi. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, tu comprends que non, c'est la logique de Paul Feig, la façon dont il a investi le sujet, c'est vraiment de faire ressortir les aspects totalement sarcastiques, j'ai envie de dire, pour être large, de la société américaine, et notamment cette espèce de délire que les Américains peuvent avoir en fait dans la représentation de soi en fait, qui pousse quand même énormément à l'extrême, que ce soit le personnage de Blake Lively, ceci étant dit, et le personnage de Anna Kendrick, qui sont littéralement opposés, quoi. Après, voilà, ça c'est le premier truc qui ressort, je trouve, le plus fort. Il va pousser la logique très très loin jusqu'à la fin, jusqu'à avoir du slapstick, hein, littéralement. Donc ça devient absurde. C'est pas ce qu'il gère de mieux dans le film. Mais moi je trouve que là où le film fonctionne vraiment bien, déjà les deux actrices sont superbes, enfin vraiment elles sont excellentes, elles jouent vraiment bien dans leur registre, c'est-à-dire il y en a une qui joue plus ou moins la comment dire, mais même si tout ça il y a beaucoup de finalement de non-dits et de couches de gris, on va dire, mais il y en a une qui joue à merveille en fait la Sainte Nitouche, typiquement la mère idéale, quoi, et l'autre qui joue la working girl absolue, qui bouffe les hommes, etc., qui leur laisse aucune chance, etc., etc. Et dans chacun des cas, en fait, il y a une véritable approche psychologique qui là pour le coup est peut-être lié au matériel, j'ai pas lu le livre, voilà, mais qui qui démontre au fur et à mesure en fait que tout ça c'est juste de la para, et voilà, et il en reste finalement en fait à la fin des vrais personnages qui fonctionnent vraiment. Moi je trouve que là où le film se perd un peu, c'est justement quand il part dans ce slapstick là aussi, parce que d'un seul coup ça devient presque des pantins en fait, à ce niveau là et ça c'est un peu dommage, il est plus qu'au bout. Ceci étant dit, voilà, alors c'est très difficile de, surtout que l'abondance révèle quand même qu'il y a déjà quelques trucs qu'il faut pas vraiment révéler, je trouve. C'est très difficile, c'est un peu comme Gone Girl, c'est-à-dire qu'à un moment donné t'as moins tensé sur le film et mieux c'est, parce qu'en fait parce que d'un seul coup t'es pas préparé forcément à ce qui va se passer. Et l'autre truc derrière, c'est que malgré tout, comme Gone Girl, tu peux revoir le film à l'aune de ce qui s'est passé, en sachant ce qui s'est passé. Il y a quand même une couche de caractérisation psychologique qui vaut ce que ça vaut, encore une fois, dans ce genre de truc, et touche humaine en fait qui fonctionne, quoi. Donc c'est là en fait où moi je retrouve le Paul Feig qui m'intéresse. Celui aussi de Freaks and Geeks, de la série télé qu'il avait produit avec Apatow à l'époque. Y a une vraie logique humaine dans sa façon d'aborder ces personnages-là. Et quelque part, en fait, même si encore une fois, c'est pas le film le plus joli, parce que c'est pas encore une fois un cinéaste visuel, c'est pas un cinéaste du rythme et tout ça, une vraie façon d'aborder un genre à sa propre manière à lui, cette fois sans trop d'interférences. Moi, je cherche depuis que j'ai vu le film en fait un thriller de ce genre-là en fait qui aurait des vraies composantes comiques et sarcastiques de cet ordre-là, et j'en trouve pas. Donc, encore une fois, je dis pas que c'est novateur, je dis pas que c'est mais c'est ce qui rend la chose un peu inédite, extrêmement plaisante à suivre une fois qu'on rentre totalement dans le bain dans le rythme du film, quoi. Donc vraiment grosse surprise, très étonné par la qualité, et je trouve ça, mais je pense que c'est très difficile à vendre en fait sous cet aspect-là. Faut le savoir, ça. Faut savoir qu'en fait, on ne va pas voir vraiment Gone Girl. On va voir, encore autre chose avec une très prononcée, une touche d'humour extrêmement prononcée, et qui fonctionne pour la plupart du temps, quoi.
Non, c'est très bien. Tout ça est très alléchant. L'ombre d'Emily, c'est en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci Stéphane. Merci à Jules à la technique. À l'antenne, pareil pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très vite.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.